Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
J'espère que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Nous nous retrouvons donc à nouveau ce soir sur cette libre antenne pour 2 heures de partage et de confidences. 2 heures d'un moment particulier au cœur de la nuit. Un moment où on laisse à l'extérieur tout ce qui est à l'extérieur pour se poser et prendre le temps de s'occuper de soi. Parmi tous ceux qui m'appellent chaque soir, je remarque que vous êtes très nombreux à vous occuper souvent des autres. Un parent âgé, une sœur malade, un enfant qui pose problème. Mais vous, qui s'occupe de vous? Qui prend le temps de vous écouter, de vous consoler, de vous encourager? Bien sûr, je ne peux pas résoudre tous vos problèmes comme ça en quelques minutes à la radio, mais je peux vous offrir une écoute bienveillante, un autre regard avec peut-être d'autres solutions. Et puis vous le savez, la Libre Antenne, c'est aussi une grande famille et quelquefois les coups de main, les solutions viennent des auditeurs qui interviennent par SMS pendant l'émission. Si vous voulez prendre la parole, prenez votre téléphone pour commencer, appelez-moi au 3921. Amandine et Hassan vous attendent au standard d'Europe 1. Pour intervenir par SMS, apporter une suggestion, donc une idée, un soutien, un mot gentil, pour demander aussi à intervenir sur l'antenne, pour réagir, vous faites simplement le 739-21 en pensant bien à commencer par le mot nuit. Enfin par mail, c'est à l'adresse suivante, libreantenne@europe1.fr. À la réalisation ce soir, on lui a mis un joli nœud de Pâques autour de la tête, c'est Fabrice Fougerousse. Et le premier appel que je vais prendre dans un instant, ce sera celui de Marcel.
23h, 1h. La Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
J'avais promis, pour ceux qui s'en souviennent et qui étaient là hier soir, j'avais promis à Claire de poursuivre ce soir avec elle la conversation que nous avions commencée à propos du décès de son mari. Sachez qu'on a appelé Claire il y a quelques instants. Finalement, elle est en famille ce soir et donc pas disponible. C'était juste pour vous dire qu'on ne l'a pas oublié, qu'on l'embrasse très très fort. Et donc, c'est avec Marcel que je vais commencer dans un instant cette conversation. Marcel, cette émission, Marcel qui est tiraillé entre son fils et son ex-belle-fille, elle va nous raconter ça tout de suite. Et notre premier appel ce soir, c'est donc celui de Marcel. Bonsoir Marcel.
Oui, bonsoir Sabrina. Non, vous m'entendez?
C'est Sabine. Bienvenue sur cette libre antenne.
Ah Sabine, ah, excusez-moi.
C'est pas grave.
D'accord. Bon.
Vous m'entendez? Je vous entends très bien.
D'accord. Donc, merci à la libre antenne et à Sem. Qui a été très, très délicat avec moi.
Alors c'est Hassan, mais ce n'est pas grave non plus.
Hassan, écoutez, je suis un petit peu sourde, mais il m'a mis en confiance.
Oui,
voilà, puis bonne fête de Pâques aux éditeurs.
C'est
voilà.
Gentil.
Donc Sabine, écoutez, j'ai une question qui n'a jamais été évoquée à la Libre Antenne. J'ai besoin de vos conseils.
Mm-hmm.
Bon, cette question, la voici. Pourquoi, suite à un divorce, les familles d'alliance doivent-elles se briser aussi? Voilà. Donc, ce problème-là, il me concerne.
Alors, elles ne doivent pas se briser, mais racontez-moi votre histoire un petit peu d'abord, si vous le voulez bien.
Oui, alors, mon histoire, voilà. C'est-à-dire que j'ai 76 ans, 55 ans de mariage et 5 enfants. L'aîné a 54 ans, le dernier 37 ans. Le problème, c'est notre petit dernier, parce que je l'ai eu à 40 ans. Longtemps après les autres, et c'était un garçon sans problème, qui a une réussite scolaire brillante, travailleur, et voilà. Et donc, dans ses études, il a rencontré une jeune fille syrienne, enfin c'était des chrétiens syriens, et il s'est attaché à elle. Aujourd'hui, notre fils est ingénieur. Elle est enseignante en langue. Donc, elle était venue à Paris pour préparer un doctorat.
Mmh.
Alors, le diplôme en poche, il fallait qu'elle rentre. C'était sous Monsieur le président Sarkozy. Il fallait qu'elle rentre en Syrie. Mon fils y est opposé. Il a voulu absolument qu'elle reste. Et on les a épousés. Ils se sont mariés. De ce mariage est né deux enfants, deux adorables petits-enfants que nous avons, 4 ans et 6 ans.
Oui.
Et mon fils, cette année, a quitté le domicile conjugal. Au travail, il a une stagiaire de 23 ans,
ah.
avec laquelle il a eu une liaison. Voilà. Et donc, la famille, c'était un tsunami dans la famille. Voilà.
Oui, j'imagine.
Voilà. Voilà.
Et surtout et pour alors, sa femme, je pense.
Ben pour la femme, pour les enfants, parce que il s'occupait énormément de ses enfants. Il y était très attaché. Et voilà que samedi, enfin, avant-hier, il m'apprend qu'il avait les enfants que tous les 15 jours, comme tous les parents, quoi. Mais au départ, il m'avait dit que c'était une garde alternée. Je trouve qu'il a fait un choix quand même.
Alors attendez, concrètement, il est parti il y a combien de temps, là, avec cette fille?
Il est parti en janvier.
En janvier, donc ça fait 4 mois, 4 bons mois.
Ouais.
Est-ce que
oui,
quelque chose a été enclenché, une procédure de divorce, de séparation?
Non.
Non, rien?
Non, pas encore. Ils ont eu 2 enfants, ils ont acheté une maison, et voilà, qui me dit qu'ils vont la maison. Donc,
il fait tout exploser, quoi.
Voilà.
Et votre belle-fille, voilà. Elle va comment?
Ma belle-fille, ça a été très, très difficile. Hein. C'est vrai. Et davantage que je lui en veux beaucoup à mon fils parce que ma belle-fille, ils ont pris les parents en charge de Syrie, ensuite à raison de la guerre. Hein. Mm-hmm. Donc les parents de Syrie, qui sont beaucoup plus âgés que nous, sont venus partager leur foyer. Et on avait l'impression que tout fonctionnait bien. Et finalement, voilà.
Et donc, quel est votre souci aujourd'hui dans cette situation-là? Si j'ai bien compris, parce que vous l'aimez bien, cette jeune femme, et vous êtes en lien avec elle et les enfants?
C'est-à-dire que je l'aime bien. Bien sûr, je l'aime bien comme mes autres belles-filles. Hein, il n'y a pas de problème. Mais davantage, c'est quand même une jeune femme qui souhaitait repartir en Syrie, que mon fils a insisté pour qu'il reste, qu'il partage sa vie. Hein. C'est une personne qui n'a pas pu retourner en Syrie parce qu'elle s'était engagée à ne pas épouser un étranger. Donc, elle est interdite de retourner en Syrie. Et de ce fait...
Oui, vous trouvez que votre fils est un peu irresponsable dans cette situation?
Absolument.
Oui.
Donc, elle travaille à Paris. Elle a beaucoup de déplacements en habitant dans le 91. De ce fait, elle a quand même 2 jeunes enfants. Elle a ses parents âgés. Je trouve que la charge est très lourde et qu'il manque beaucoup de délicatesse, quoi. Alors que ce n'était pas un garçon. C'était un garçon qui ne sortait pas, que tout le monde nous enviait. Voilà exactement.
C'est la crise de la quarantaine là qu'il est en train de faire?
Non, je ne sais pas, c'est ce que je me demande. Hein.
Oui.
Et alors, de ce fait, pour soutenir le couple là, pour essayer de régler les choses, nous avons pris avec mon mari un pied à terre en région parisienne. C'est déjà pas très très facile, c'est très coûteux. Et voilà qu'il m'interdit de participer de décharger ma belle-fille d'aller chercher les enfants à l'école, voilà.
Alors attendez, il y a 2 choses dans ce que vous me dites là, Marcel. Vous dites pour régler les problèmes. Ça, je pense que vous n'allez pas régler les problèmes, le problème de couple. Que vous soyez plus proche. Ah oui, d'accord, parce que pour aider dans ces cas-là, vous n'allez pas régler leurs histoires de couple.
Non, c'était...
C'est donner un coup de main à votre belle-fille qui, quoi qu'il arrive, est votre belle-fille de toute façon.
Eh bien oui, prendre les enfants à l'école parce qu'elle me dit que les trains sont souvent en retard, qu'il y a souvent des problèmes de transport. Et après, elle est obligée de rechercher des solutions.
Et donc, qu'est-ce que ça lui pose comme problème à votre fils?
Je ne sais pas.
Mais qu'est-ce qu'il vous dit, en fait?
Il me dit que ce n'est pas qu'on ne le soutient pas si on donne raison à...
Oui, d'accord. Donc, il se comporte, permettez-moi, pardon pour l'expression, mais il se comporte un peu comme un sale gosse, quoi.
Ouais.
Parce que, vous savez, quand à partir...
Il est mature.
À partir du moment où il y a des enfants, la donne est différente. Cette femme, cette jeune femme, restera toujours la mère de vos petits-enfants.
Oui, évidemment.
Donc, s'il n'y a plus de lien amoureux entre elle et lui, ça les regarde. C'est sa responsabilité. Mais le lien qu'il y a entre ces enfants-là, cette femme et vous, ça vous regarde vous ?
Oui, ça nous regarde aussi.
À partir du moment où il a fait des enfants avec elle, il faut qu'il comprenne que ces liens-là sont éternels. Même d'accord, si on n'est plus avec une femme, elle restera toute sa vie la mère de ses enfants et vous resterez toute sa vie et toute votre vie la grand-mère de ses enfants. Et ses enfants, d'accord, ils ont une maman. Donc, en plus, vous avez de la chance que ça se passe bien et elle a de la chance de vous avoir aussi. Ça, c'est précieux. Parce que quelquefois, ça se passe très mal entre une belle-mère et sa belle-fille. Là, ça se passe bien. Sa responsabilité à lui, c'est de l'avoir quitté. Ça, c'est son histoire. Personne ne le juge là-dessus. En revanche, une fois de plus, quand il y a des enfants, il faut se comporter en adulte. Et là, il ne se comporte pas en adulte du tout. Il n'est pas question d'accord, de prendre parti. Vous n'êtes pas en train de prendre parti pour ou contre. Vous êtes en train de vous occuper des enfants.
Et d'aider
une femme qui se retrouve toute seule avec deux petits à élever.
Absolument.
Donc là, je pense qu'effectivement, peut-être que le petit dernier, c'est comme vous me disiez, c'est le petit dernier, votre fils. Il se comporte un petit peu comme comme un gamin, quoi.
Oui, mais enfin, le problème, j'ai encore un autre problème. L'autre problème, c'est que les autres enfants, ses frères et sœurs, nous ont tourné le dos parce qu'on ne soutient pas. On ne va pas dans son sens, quoi. Voilà. Parce qu'on a pris un pied à terre à Paris. Donc, ses frères et sœurs le soutiennent et nous ont tourné le dos.
Quand vous dites « on », c'est votre mari aussi ?
Oui, mon mari, oui.
Et votre mari ne peut pas un peu taper du poing sur la table dans cette histoire et leur dire...
C'est ça. Oui, c'est ça que je voudrais.
Oui, ben oui. Qu'il prenne sa place aussi d'homme, de patriarche. Qu'il explique un peu à ses enfants que, OK, il y a des petits-enfants. Une fois de plus, ça serait juste un couple. Effectivement, ça serait assez inapproprié. On pourrait comprendre. Mais à partir du moment où il y a des enfants, les états d'âme amoureux des uns et des autres, ça ne compte pas dans l'histoire. Ça, c'est leur problème. Mais ces enfants-là sont vos petits-enfants pour la vie. Ça, personne ne peut l'oublier.
Bien évidemment, ils sont adorables. Les frères et sœurs lui ont montré, enfin, la famille, qui a bien participé au mariage. Hein, tout le monde était en bon entente, il y a 8 ans. Mais aujourd'hui, la famille, étant donné que les parents faisaient partie de leur foyer, ça a posé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que la famille s'est opposée, alors que c'est des gens formidables, avec qui on s'entend bien aussi. Voilà, le problème
est là. Oui, il y a une sorte d'intolérance un peu, j'ai l'impression, là.
Oui, tout à fait. Quelque chose de cet ordre-là. Je n'ose même pas vous dire. Hein. Oui. Au niveau de l'antenne, je n'ose même pas vous dire que...
Il y a du racisme, c'est ça ?
Absolument. Ben voilà, vous le dites. Ben, il y a des jugements qui me sont fort désagréables.
C'est ce que j'entends entre les lignes, oui.
Oui, voilà. Donc je peux dire à mon... Je dois dire à mon fils que...
Juste pour...
Je vais poursuivre mon choix.
Une petite question quand même pour être sûre. Vous n'avez pas fait de reproche à votre fils. Vous n'avez pas pris parti pour ou contre. Ou si quand même.
Non. Bah, pour ou contre, non. Mais bien évidemment, je ne lui ai pas fait mes compliments. Non, parce qu'il faut quand même... je veux dire, son épouse, elle a 7 ans de plus que lui. Donc, c'est une personne qui a 44 ans. Mais c'est des personnes... En plus, elle est très, très intelligente, elle est enseignante. Bon, je ne comprends pas que... Je ne vois pas ce qu'on y veut, parce que simplement qu'elle est syrienne et qu'elle ne vit pas comme nous. Voilà. Et ce n'est pas qu'elle ne vit pas comme nous, c'est que...
Alors, oui, attention quand même, si je peux me permettre, Marcel, avec votre fils, de ne pas être dans le jugement. Parce que là, pour le coup, il faut peut-être rééquilibrer un peu la balance. Vous êtes quand même aussi sa maman à lui. Et quand on, quels que soient les torts, les raisons, ça reste une histoire de couple et je pense que vous n'avez pas à les juger ni l'un ni l'autre.
Oui,
et bien réexpliquer à votre fils que ça n'enlève rien à vous l'aimer, votre fils, vous n'êtes pas contre lui. Simplement, vous êtes la grand-mère de ces enfants-là et c'est comme ça, c'est pas autrement.
Mais la stagiaire avec qui il a une liaison, elle a 23 ans. Voilà, le problème, il est là.
Ça, Marcel, c'est son problème à lui. C'est sa vie à lui, c'est son... Ça, que ça ne vous plaise pas, je peux parfaitement le comprendre et l'entendre. Mais en même temps, voilà, on peut pas juger qui que ce soit là-dessus. Ça, c'est une fois de plus, gardez quand même le bon équilibre dans toute cette histoire. Il ne s'agit pas d'être contre votre fils ni de le juger, c'est son problème, c'est sa vie. En revanche, là où il faut vraiment être ferme, c'est sur cette relation-là, cette femme est la mère de vos petits-enfants. Et elle le sera toute votre vie. Et donc ce lien-là, ça vous regarde. C'est un lien entre elle et vous, entre vos petits-enfants et vous. Il n'a pas à intervenir là-dessus. En revanche, vous n'avez pas non plus vous à être dans le jugement par rapport à lui. Et ce n'est pas une question de prendre parti. C'est votre fils, vous l'aimez évidemment. Simplement, vous avez de l'autre côté. Vous assumez aussi des responsabilités que lui n'assume plus.
Oui, d'accord.
Et quelque part, je pense qu'il peut quand même vous être reconnaissant d'être là. Là où lui est défaillant, vous assurez quand même une aide à cette femme et à ses enfants.
Ben, absolument. Mais oui. Voilà, c'est ce que j'avais relevé. Je ressentais un genre de, c'est pas de la maltraitance, mais une façon de la mettre par terre, finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Une façon déguisée pour la, lui faire du mal. Voilà, c'est tout. Hein.
Voilà. Bon, Marcel, ne lâchez pas là-dessus, mais expliquez-lui bien.
Vous refusez absolument, oui.
Vous n'êtes, simplement, ne soyez pas dans le jugement avec lui. Soyez dans la bienveillance, mais gardez votre rôle. Gardez cette place-là, elle est importante, cette place-là. C'est la vôtre.
Oui, voilà, d'accord.
D'accord.
Donc, comme c'est les vacances, je vais les emmener avec moi, il n'y a pas de problème.
Mais ils ont de la chance de vous avoir.
D'accord. C'est très gentil à vous, merci beaucoup.
Je vous embrasse, voilà. Marcel.
Voilà, merci beaucoup, moi de même.
Au revoir.
Merci.
Et j'accueille maintenant Aurélie sur cette libre antenne. Bonsoir Aurélie. Allô ?
Vous m'entendez ?
Ah ça y est, bonsoir Aurélie.
Ah excusez-moi, j'ai cru que vous m'entendiez pas.
Si, au début non, mais c'est bon, je vous ai récupéré.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Avec plaisir, j'ai l'impression que vous êtes un peu à bout là.
Ouais, je suis très très fatiguée. On a eu une semaine un peu éprouvante.
Racontez-moi ça.
Alors, si vous voulez, je vais faire partir du début. On est donc une famille recomposée. Il a deux enfants. Moi, j'en ai une, d'une première union à chaque fois.
Ils ont quel âge, les trois ?
Alors, les siens sont grands, 22, 18, et la mienne est petite, elle a 8 ans.
Ouais.
Donc, on a 10 ans d'écart. Et depuis 4 ans, en fait, sa fille nous fait vivre un peu un enfer. Beaucoup, elle s'est déscolarisée, ça a été des crises d'une violence inouïe pendant quelques années. Ça s'est un peu tassé, mais j'en vois pas le bout, en fait.
Que je comprenne bien, ça fait combien de temps que vous êtes avec son papa ?
7 ans.
7 ans, et donc elle avait 11 ans.
Elle avait 11 ans quand on s'est rencontrés, on s'est mis en ménage, elle avait 13 ans.
Et là, ça s'est passé, c'est compliqué parce que c'est l'un des pires moments pour une fille en plus.
Exactement, c'est vrai, ça a été vraiment très compliqué.
En pleine crise
avec
de l'adolescence.
Exactement, avec le fils, ça a été super.
Mais oui,
c'est pas la même histoire. Ça s'est très bien passé. Mais exactement, vous avez raison.
Et puis il y a probablement une rivalité avec votre fille qui du coup prend la place de petite dernière.
Tout à fait, ça y joue beaucoup, et d'ailleurs elle le ressent beaucoup, ma fille, elle est très fatiguée aussi, elle m'en a parlé beaucoup hier soir, elle s'est mise à pleurer, qu'elle en avait marre en fait, parce que ça crée des tensions entre son beau-père et moi qui sont énormes, et on se dispute beaucoup, et du coup la petite qui a déjà vécu une séparation assez violente, elle ne veut pas revivre ça, ce que je peux comprendre. Donc hier, elle a craqué et moi, je reconnais que ces derniers temps, je suis vraiment très, très fatiguée, plus du tout réceptive, plus je m'éloigne de plus en plus. Et je pense à partir, même si je l'aime toujours. Quoi.
Vous me disiez que ça fait 4 ans que ça s'est vraiment intensifié. Qu'est-ce qui s'est passé de particulier pour elle ?
Eh bien, c'est une bonne question. On n'a jamais su. Mais si vous voulez, ça a tellement été loin qu'on a été obligé de faire appel aux services sociaux pour nous aider. Parce qu'on ne voyait pas d'issue favorable, en fait. Elle découchait, elle disparaissait pendant des jours, on la cherchait partout. Mmh. Elle a donc, comme je vous disais, elle s'est déscolarisée pendant 2 ans. Ça a été vraiment très, très compliqué, des cris, des insultes. Moi, elle ne m'adressait pas du tout la parole. Là, maintenant, elle me dit « bonjour ». Voilà, on en est là. On arrive toujours les premiers temps à se dire « Allez, ça va s'arranger, ça va s'arranger. » Et même quand vous avez un mieux, et ben, tout de suite derrière, il y a un drame. Et à un moment, je me dis « Mais ça ne va jamais se terminer, même si elle est majeure. » Parce que, ben parce que elle a pas fini ses, du coup, elle a en reprise d'études, elle n'a pas fini ses études. Et qu'elle n'est pas très stable. Donc je me dis, mais quand est-ce que ça va se finir ? Et je ne me permettrai surtout pas de demander à mon compagnon de faire un choix.
Non, bien sûr que non. Mais quels sont ses rapports avec sa fille ?
Oh, il idolâtre un peu, beaucoup. Voilà. Beaucoup, beaucoup.
Et avec la maman de cette jeune fille ?
Ils sont...
Entre lui et elle, et entre sa fille et sa maman ? dans les deux
alors,
sens.
Alors entre lui et elle, c'est de la guerre froide, si vous voulez.
Ben voilà, ça aussi, ça entretient bien le poison, ça.
Ah, complètement. Ils n'ont pas trouvé d'accord pour la remettre sur les rails. Donc,
Est-ce qu'il vous a quitté pour elle ? Est-ce qu'il l'a quitté pour vous ? C'est l'inverse que je veux.
Pas du tout.
Non,
pas du tout.
Ça, on s'est rencontrés, d'accord.
Exactement. Mmh. Non, on s'est rencontrés, on était déjà séparés, et l'un et l'autre.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout ni l'un ni l'autre la cause de la séparation.
Mais ils sont quand même en guerre.
Mais ils sont quand même en guerre, ouais. Pour tout.
Et votre belle-fille avec sa maman ?
Eh bien, plus ou moins en guerre aussi. Hein. Ah. C'est compliqué aussi. Alors là, ça a l'air de se tasser, mais parce qu'elle lui passe beaucoup de choses que nous, on avait tendance à ne pas passer à la maison. Et du coup, tout a été rajouté. Mais moi, j'ai eu des menaces, j'ai eu
de la part de la fille ou de la mère ?
De la fille.
De la fille.
Ouais.
Des menaces de quel type ?
De me casser la figure si j'osais regarder sa mère.
Oui, c'est ça. Elle s'est mise sur le dos un conflit qui n'est pas le sien.
Oui, puis surtout qu'on n'a pas... Enfin, je ne comprends pas parce que je suis quelqu'un d'assez discret. Je ne me permettrai
C'est pas vous, Aurélie, le problème. Du tout. N'importe qui à votre place serait dans la même situation. Il y a plusieurs facteurs dans votre histoire. Il y a le fait, c'est ce qu'on a commencé à aborder tout à l'heure, c'est que vous arrivez dans la vie de cette jeune fille qui est instable puisque ses parents sont séparés, avec une petite fille qui, quelque part, lui prend sa place. Donc c'est compliqué à vivre. Ensuite, vous êtes une maman d'une petite fille qui n'a pas encore connu l'adolescence. Vous verrez quand la vôtre y passera. Il y a des choses que, je ne veux pas vous faire peur, mais il y a des choses que vous comprendrez, que vous gérez différemment. Cette expérience-là, il faut la vivre. Tant qu'on ne l'a pas vécue, on juge un peu facilement de l'extérieur. On a des petits anges qui se transforment en démons, hein, surtout les filles. Donc, ce n'est pas simple pour vous. C'est doublement compliqué parce que déjà, vous êtes l'ennemi, puisque vous prenez la place de sa maman, qui est visiblement malheureuse dans cette histoire-là. Et ça, vous n'y êtes pour rien du tout, puisque ce n'est même pas à cause de vous qu'il l'a quittée. Simplement, si ses parents sont en guerre, parce que cette petite fille, enfin, je parle de votre belle-fille, hein, quand elle était petite, ce qu'elle a compris, c'est que sa maman était en souffrance. Ce qui est juste inacceptable. Donc elle a probablement magasiné une colère monumentale et vous faites punching ball.
Ah oui, mais c'est flagrant.
Malheureusement, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'adulte, c'est vous. Alors il y a aussi votre conjoint, mais l'adulte, c'est vous et qu'il faut tenir le coup. Vous n'avez pas beaucoup d'autres choix, vous n'allez quand même pas vous laisser pourrir une relation pour une jeune fille qui est quand même en train de grandir et qui va s'envoler du nid à un moment ou un autre, de toute manière. Et surtout, il faut que vous compreniez que le problème, ce n'est pas contre vous. Même si c'est bien sûr c'est vous qui prenez parce que vous êtes là, mais demain matin il vous quitte, il y en a une autre qui vient, ça sera pareil. C'est la structure qui veut ça. Cette jeune fille a emmagasiné beaucoup de colère parce que sa maman va forcément mal. Quand on est en guerre avec son ex-mari, on va forcément mal. Elle doit être pleine de rancœur aussi, pleine de colère, d'émotions négatives qu'elle a forcément retransmises à sa fille. C'est une sorte de millefeuille, votre histoire. Oui. Il y a cette couche-là. Il y a votre petite fille à vous qui fait un peu office de petite princesse de remplacement. C'est-à-dire, ben voilà, moi je grandis, mais de toute façon maintenant à la maison, il y en a une petite qu'on a envie de dorloter. Donc c'est pas juste. Il y a l'adolescence qui fait que tout est multiplié par 10, par 50, par 100. Enfin voilà, ça prend des proportions... Des choses qui pourraient être gérées un peu plus calmement quelques années avant, quelques années plus tard, ça devient des tsunamis émotionnels. Ça, vous n'y pouvez rien non plus. Mais tout ça, ce n'est pas contre vous. Il faut vraiment que vous arriviez à vous faire aider pour prendre la bonne distance par rapport à ça.
Alors, si vous voulez, moi, j'ai déjà fait cette démarche, puisque pendant une période, quand elle arrivait à la maison, je faisais des risques d'angoisse.
Vous avez absorbé de ça en plus, quoi.
Ouais, donc du coup, j'avais été consultée parce que je craquais complètement. Il faut dire qu'il y avait une violence à la maison inouïe. Et moi, ça, j'ai beaucoup de mal à le supporter. Dans les paroles, c'était vraiment, vraiment compliqué à gérer. Et puis là, nous, on avait, mon compagnon et moi, décidé de consulter justement parce qu'il faut... Les événements extérieurs font qu'à bout d'un moment, on est quand même très mis à mal, j'allais dire. Et il faut quand même qu'on arrive à surmonter plein de choses. Mmh. Donc du coup, on fait on a fait la démarche d'aller voir un thérapeute de couple, mais effectivement, malgré tout, y a toujours des moments où je suis en pleine hésitation, et là, particulièrement en ce moment, parce que comme je vous dis, j'en vois pas le bout.
Mais quand on est au cœur de ça, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais, mais ça s'arrête. Vous savez, c'est toute comparaison gardée. C'est comme quand on a un tout petit bébé qui dort pas pendant des mois et des mois, on n'en peut plus. On se dit ça n'arrivera jamais. Puis un jour, le bébé il grandit tellement vite qu'on se dit mon Dieu, c'est déjà fini. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Non, je me posais deux questions. La première, c'est son grand frère. Vous m'avez dit que ça se passe plutôt bien avec lui.
Oui.
Est-ce que lui peut pas quand même nous servir un peu d'intermédiaire dans tout ça?
Oh là, il a essayé, le pauvre, vraiment.
Il s'en est pris plein la tête aussi.
Ouais, non, c'était vraiment pas, c'était vraiment pas approprié parce que il a été super adorable, hein, vraiment, avec nous, il nous a soutenus tout le temps.
Ça, c'est une grande chance, hein, parce que vous auriez pu avoir les deux ados pour le même prix.
Ah oui. Oui, non, mais son fils est vraiment, c'est une perle, vraiment. Donc, il a été extrêmement gentil avec ma fille. Il l'a tout de suite accepté. Enfin, c'est vraiment un gentil garçon. Et du coup, non, ça se fait. Il pouvait pas. C'était trop compliqué pour lui à chaque fois.
Mais peut-être qu'il peut au moins servir de référent pour la petite. Une épaule, quelqu'un à qui elle peut aller parler, quelqu'un qui peut lui faire des câlins pour la rassurer, lui dire que voilà, que lui, il l'aime. Qu'elle se sent pas rejetée de ce côté-là. Ce rôle-là est hyper important pour la petite.
C'est vrai que ça, elle le reçoit beaucoup avec lui.
Ça, c'est vraiment bien.
Parce que dès qu'il arrive, c'est vraiment le grand frère, quoi.
Ça, c'est important. Et la deuxième question que je me posais, c'est elle n'est pas avec vous à temps plein?
En garde alternée. Mais en plus, on n'a pas qu'elle, on a son compagnon avec nous à la maison.
Ah, ça, vous ne me l'avez pas mentionné.
Non, mais ça, en plus, maintenant, c'est encore plus compliqué. Parce que du coup, une semaine sur deux, moi, j'ai l'impression de plus être chez moi, quoi.
Ah, d'accord. On va en parler dans un tout petit instant, si vous voulez bien. On marque une courte pause.
Merci.
Et je vous récupère dans une minute. Merci, à tout de suite.
Merci.
Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 39-21, 50 centimes la minute.
Aurélie, vous êtes toujours là?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de petite amie qui vient habiter chez vous en même temps qu'elle?
Ah oui, parce que...
D'où il sort, lui?
Eh bien, en fait, j'ai pas trop eu le choix. Hein. Un jour, nous a demandé si elle pouvait dormir avec son compagnon à la maison pour un week-end. Mm-hmm. Donc, ce qui a été accepté. Et en fait, il n'est jamais parti.
Mais c'est-à-dire qu'il fait une semaine chez maman, une semaine chez papa. elle traîne dans ses bagages son petit ami, c'est ça l'idée?
C'est exactement ce que je suis en train de vous dire.
Alors ça, j'avais jamais entendu celle-là.
Ah non, mais c'est
particulier, franchement.
Ouais. Non, mais ça, c'est un enfer pour moi. Parce que du coup.
Il n'a pas de parents, ce garçon?
Ah si, il est majeur, il travaille, il a un CDI.
Et il habite une semaine chez sa belle-mère et une semaine chez son beau-père.
Exactement. Non, mais je vous assure, c'est une blague, en fait. Hein.
Et votre compagnon, il accepte ça?
Ah, mais il accepte tout.
Oui, mais vous savez pourquoi il accepte tout?
Ah, mais oui! J'ai bien compris qu'il avait tellement peur de la perdre que de toute façon, il lui céderait tout.
C'est pas tellement la peur de la perdre, c'est la culpabilité d'avoir quitté sa maman. Et ça, c'est un schéma qu'on retrouve quasiment tout le temps. Il y a force chez un homme qui quitte une femme avec les enfants, ils ont tendance à tout pardonner aux enfants, à tout laisser passer parce qu'ils se culpabilisent d'avoir fait vivre ça.
Oui, mais pourtant, si vous voulez, quand ils sont séparés, c'est parce qu'elle avait une liaison et qu'elle voulait le partir, quoi.
Oui, mais je sais.
Et malgré tout, il a quand même cette culpabilité.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est complètement irrationnel. Quelle que soit la faute et le côté de la faute, il y a quand même une notion d'échec et d'enfant qui souffre au bout du truc. Et puis peut-être aussi qu'elle est partie avec un autre parce que lui n'avait pas eu le comportement adéquat ou j'en sais rien. Et ça, c'est entre eux.
Oui. Forcément. C'est leur histoire. Hein,
c'est leur histoire, mais il y a toujours, quel que soit le. Il n'y a pas de coupable dans une séparation, mais quel que soit le scénario, il y a toujours une culpabilité vis-à-vis des enfants. Et malheureusement, la majorité des hommes essayent de contrecarrer cette culpabilité en laissant passer trop de choses derrière, après. Comme si le fait d'être un peu ferme avec sa fille lui faisait peur qu'elle lui en veuille encore plus, quoi.
Oui, c'est bien le sentiment que j'ai, et parfois même il l'avoue. Mais à un moment, il faut aussi mettre un peu le haut là à certaines choses. Et là, je vous dis, nous, une semaine sur deux, on vit à 4, quoi, ou à 5, on ne sait jamais, en fait, parce qu'ils nous disent, ils nous préviennent jamais. Enfin, c'est, tout est aléatoire, en fait, vous ne pouvez rien prévoir, rien.
Tout c'est... tourne autour d'elle dans cette famille, en fait.
Exactement. Et quand vous, même ma fille de 8 ans me dit ça, je suis très choquée parce que c'est elle qui m'a fait prendre ça, j'ai un peu pris ça en pleine tête la dernière fois. Et elle m'a dit, mais on est toujours en train de parler d'elle, il y a qu'elle, et elle a raison, en fait.
Donc, ok. Il y a peut-être plusieurs choses à faire. La première, c'est quand même vous dire que si cette jeune fille se comporte comme ça, c'est qu'elle est en souffrance. C'est compliqué d'y penser et de se mettre ça dans le cœur et dans l'esprit, mais quand on est face à une jeune fille qui vitupère, qui menace, qui manipule son petit monde, ce n'est pas une preuve de bonheur et d'équilibre. Si elle était bien, elle ne serait pas comme ça. Et imaginez à chaque fois qu'elle a ce comportement que c'est la petite fille en colère à l'intérieur d'elle qui parle.
Oui, ça me permettrait de relativiser un petit peu.
Ben, ça vous permet de vous positionner en tant qu'adulte. Et de comprendre qu'une jeune fille qui va bien, certes, elle fait une crise d'adolescence, mais là, c'est même plus ça, on va bien au-delà de ça, c'est vraiment une souffrance. Alors, c'est pas à vous de la prendre en charge, vu vos relations, ça serait à sa maman et à son papa, ils le font pas, j'en sais rien. Là, c'est là où il faut peut-être apprendre à lâcher prise aussi, et à vous protéger, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris ça et que vous avez pris cette distance émotionnelle qui est essentielle dans des situations à risque comme ça, explosives, la deuxième chose, c'est de vous dire que vous avez une vie et vous avez une fille. Et une fois de plus, la place que cette jeune fille prend, qui visiblement est démesurée, puisque même votre fille s'en plaint, c'est aussi parce que vous lui laissez cette place-là.
Oui, tout à fait.
Parce que j'imagine que pour faire plaisir à votre conjoint, pour ne pas mettre en péril la relation, pour plein de raisons, puis parce que vous êtes quelqu'un, d'après ce que j'entends, qui est plutôt ouverte et généreuse. Sauf que là, il va aussi falloir vous protéger. Ça veut dire que les semaines où elle est là, il ne faut pas donner prise à tout ça. Les semaines où elle est là, organisez des choses avec votre fille. Soyez extrêmement occupée ailleurs. Ne lui accordez ni temps ni importance, si vous voulez.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Parce que j'ai tellement essayé d'arrondir les angles pour que tout se passe au mieux.
Et vous savez que paradoxalement, vous faites la même chose qu'elle. C'est-à-dire qu'elle a pris sur ses épaules un conflit qui n'est pas le sien. Et vous essayez de résoudre des problèmes qui ne sont pas les vôtres, en fait. Vous essayez, entre guillemets, la sauver, d'améliorer la situation, d'arranger les choses. Et vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. Ce n'est pas à vous, cette histoire-là.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je l'avais jamais vu comme ça, en fait.
Et du coup, vous vous épuisez à vouloir régler un problème pour lequel vous ne pouvez rien. Comment régler quelque chose qu'on n'a pas créé soi-même ?
Oui, et puis en plus, on ne marche pas du tout de la même manière. Donc, avec mon compagnon, je vois vraiment qu'on a... au niveau de l'éducation, il y a un monde d'écart. Donc, on n'intervient pas, quoi.
Bah là, il n'est pas dans l'éducation, il est dans la compensation, visiblement.
Ah, complètement, oui.
Il compense ce qu'il...
Dans l'effacement, même, oui, j'allais vous dire. Oui. C'est vraiment un effacement complet, quoi. Parce que quand je lui dis, il y a quand même des choses qui me dérangent, ne serait-ce que laver le linge du compagnon de sa fille... il a fallu que je me batte pour lui dire non, mais ça, je ne veux plus le faire. Quoi.
Mais Aurélie, arrêtez de vous battre, juste arrêtez de le faire, c'est tout.
Oui, c'est vrai.
Ben oui.
C'est
vrai. Parce qu'en vous battant, vous vous épuisez et vous perdez une énergie précieuse pour votre fille.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut simplement que je lâche prise, en fait, vous avez raison.
Alors, il y a deux manières de le faire, et c'est vraiment, ça ne regarde que vous, et c'est à vous de choisir. Soit de le faire en mettant les points sur les i, mais gentiment d'abord. En disant à votre compagnon, voilà, j'ai choisi de lâcher prise sur ça et ça et ça. Ne sois pas surpris, c'est dans un but de positif. Mais il y a des choses que je vais arrêter de faire. Puis il y a des choses que je vais aller faire avec ma fille. Et avec cette jeune fille, lui dire ou lui écrire, si vous n'avez pas envie de vous confronter à elle, exactement ce que je vous ai dit ce soir. Je pense que tu portes un problème, un conflit qui n'est pas le tien. Je pense que tu te trompes d'adversaire, tu te trompes de combat avec moi. C'est ton choix, c'est pas le mien, moi je lâche prise là-dessus. J'ai pas envie qu'on soit dans les conflits, j'ai plus envie de ça. Juste ça. Ou alors vous dites rien et simplement vous lâchez prise et vous protégez vous et votre fille. Et vous gardez avec votre conjoint, parce que j'ai bien compris qu'il y avait quand même encore de l'amour et qu'il y a des belles choses entre vous, vous gardez des moments à vous.
Oui, c'est vrai, parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à les avoir. Il y a tellement de tensions, si vous voulez, que du coup on se tend tous les deux, chacun
savez,
de notre côté.
Regardez, ayez l'image d'une corde. Quand chacun tire sur la corde, il y a beaucoup de tension, on est bien d'accord.
C'est vrai.
Mais si on a un des deux qui lâche la corde, l'autre, il peut toujours continuer à tirer. Hein.
Mais c'est vrai.
C'est sa responsabilité à elle, son comportement. C'est pas le vôtre, c'est pas la vôtre.
C'est vrai que j'essayais toujours de tout améliorer, mais finalement, il faut peut-être que simplement que j'arrête.
Ben, au bout d'un moment, quand une stratégie qu'on a mise en place ne fonctionne pas, c'est vrai que c'est intéressant de faire un pas de côté, de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je mène le bon combat ? Visiblement, si je m'épuise et que je n'ai pas de résultat, c'est que ce n'est pas le bon combat.
Oui, c'est vrai.
Et quelquefois, le meilleur combat, c'est de ne plus en mener.
J'avais jamais vu cette hypothèse-là, mais je pense que je vais adopter ça. Ça me fera du bien, ça m'apaisera un peu.
J'en suis persuadée, et je pense vraiment que votre seule responsabilité la plus importante aujourd'hui, c'est votre petite fille. C'est qu'elle soit bien, qu'elle voilà, développer ce lien avec ce grand frère qui est formidable, garder une complicité avec elle, avec des moments uniques qui ne sont que pour vous, notamment la semaine où votre belle-fille est là. Trouver des activités, des occupations, des sorties, des trucs à faire avec votre fille. Soyez très occupées toutes les deux. Et puis après, la semaine d'après, vous pouvez retrouver un lien différent avec votre conjoint. C'est autre chose.
Ah oui, tout à fait. Je vais réagir comme ça. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée.
Dans beaucoup de situations dans la vie, en fait, on a tendance, parce qu'on est surtout nous, les femmes, on est des bons petits soldats. Donc on a tendance à remonter les manches, à dire on va aller au combat. Et quelquefois, on oublie qu'il vaut mieux arrêter de combattre. Juste arrêter.
Oui, puis là, comme je vous disais, je suis vraiment très très fatiguée, ça m'amuse vraiment. Donc effectivement, en arrêtant, en me recentrant sur l'essentiel, ça ira beaucoup mieux, je pense.
J'en suis persuadée aussi, mais attention, qu'on soit bien d'accord, arrêter lâcher prise, c'est pas être dans une sorte de vengeance en disant tu vas voir ce que tu vas voir, si j'arrête, il va se passer ça, c'est pas ça. C'est vraiment, lâcher, c'est vraiment vous dire, ok, on laisse couler.
Non, mais je suis pas dans ce système de vengeance, je trouve que ça apporte rien. Donc non, là par contre, effectivement, je vais reprendre mes rênes par rapport à la petite et puis profiter des semaines où on n'est que tous les trois pour se recentrer sur la famille, les trois, quoi. Ça sera bien comme ça.
Ça me paraît une bonne chose.
Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses.
Avec grand plaisir et je vous souhaite plein de bonheur avec votre conjoint et vous allez voir que les années passent beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine.
Merci beaucoup.
Je vous embrasse Aurélie.
Bonne journée.
Au revoir. Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Ne restez pas seul ce soir. Si quelque chose vous attriste, si vous avez des questions, envie de parler de vous, de votre vie, un seul numéro de téléphone, 3921. Amandine et Hassan sont prêts à vous accueillir et à vous amener jusqu'à moi, dans ce studio tout bleu. Et nous pourrons nous raconter nos vies. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. Et c'est Sophie Tussaud qu'on retrouve pour un dernier point sur l'info. Bonsoir à vous Sophie.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la tristesse du pape après les attentats au Sri Lanka. Les annonces à venir d'Emmanuel Macron à la crise des Gilets jaunes ne sont pas à la hauteur des attentes des Français selon Nicolas Bay. Et puis le PSG, officiellement champion de France.
Europe 1.
Un week-end de Pâques endeuillé par des attentats en série au Sri Lanka. 8 explosions visaient des églises durant la messe et des hôtels de luxe. Au moins 207 personnes ont été tuées, dont plusieurs Américains et Britanniques. 450 autres blessés. 8 personnes ont été arrêtées, mais les attaques n'ont pas été revendiquées. Durant la bénédiction Urbi et Orbi au Vatican, le pape François a exprimé sa tristesse.
J'ai appris avec tristesse et douleur la nouvelle des attaques graves qui, aujourd'hui même, le jour de Pâques, ont provoqué le deuil et la douleur dans certaines églises et autres lieux de rencontre au Sri Lanka. Je souhaite exprimer ma proximité affectueuse à la communauté chrétienne, frappée pendant qu'elle était réunie dans la prière, et à toutes les victimes de cette violence cruelle. Je confie au Seigneur ceux qui ont tragiquement disparu et je prie pour les blessés et tous ceux qui souffrent à cause de cet événement dramatique.
Le pape François, une bénédiction durant à laquelle a assisté ce matin notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet. Relancer le processus de paix avec la Russie, c'est ce que souhaite le nouveau président ukrainien. Le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky remporte la présidentielle haut la main devant le président sortant Petro Porochenko. Selon les sondages de sortie d'urne, il est crédité de 73% des voix. En France, à Paris, un dimanche de Pâques différent des autres après l'incendie à Notre-Dame. La messe pascale a été célébrée à Saint-Eustache. Un vibrant hommage a été rendu aux pompiers. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron était au Touquet. Le président s'est offert un bain de foule. Jeudi à 18h, il apportera ses réponses à la crise des Gilets jaunes. Certaines mesures ont déjà filtré, comme un RIC, un référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Pour Nicolas Bay, eurodéputé du Rassemblement national, ses propositions ne sont pas à la hauteur des attentes des Français.
Dire on va faire un référendum d'initiative citoyenne au niveau local, c'est mépriser cette revendication des Français. Pourquoi ? Parce que la question, c'est pas de savoir où est-ce qu'on va mettre le rond-point ou le nombre d'étages de la médiathèque. Et c'est pas des questions de politique locale. Il faut respecter les Français. Respecter les Français, c'est leur demander leur avis sur les grands sujets. Aujourd'hui, ce qu'ils proposent, ils consentent des petits ajustements qui, évidemment, sont pas à la hauteur. On a une démocratie représentative qui est malade. On peut pas avoir une petite caste, une petite élite dont on voit aujourd'hui qu'elle est en rupture avec 80 ou 75% de l'opinion publique, décider de tout de manière unilatérale, sectaire. La démocratie française ne peut pas fonctionner de cette manière. Donc le RIC local, c'est une marque supplémentaire du mépris qu'Emmanuel Macron a déjà souvent manifesté malheureusement ces derniers mois à l'égard des Français.
Nicolas Bay, invité du Grand Rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour outrage après les slogans de certains gilets jaunes ce samedi. Des manifestants ont lancé des « suicidez-vous » aux forces de l'ordre à Paris. Des propos qui ont choqué alors que depuis le début de l'année, 28 policiers se sont donné la mort. Le PSG, officiellement champion de France. Les Parisiens étaient sacrés ce soir avant même de jouer face à Monaco grâce au match nul entre Toulouse et Lille, 0-0. Il marque finalement l'événement en beauté après une victoire 3-1 sur les Monégasques. Écoutez Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.
On a l'impression que c'est normal, mais nous savons que c'est pas normal. Être champion de France très très tôt, c'est une performance excellente. Dans le stade aujourd'hui, c'était pas une ambiance que peut-être tu es champion pendant les derniers matchs et la dernière minute, mais c'est un peu comme ça. Je suis fier parce que nous avons montré qu'on veut gagner et c'était une bonne performance après trois matchs compliqués.
Thomas Tuchel au micro européen de Cyril de la Morinerie. En tennis, les Bleus gagnent leur billet pour la finale de la Fed Cup. Une qualification au bout du suspense 3-2 à l'issue du match double. Elles affronteront donc pour le titre l'Australie. À la météo, Valérie Darmon, est-ce qu'il va faire beau ce lundi de Pâques ?
Plus ou moins. Alors au nord de la Seine jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes, là vous passez la journée sous un soleil généreux et de la chaleur surtout l'après-midi. De la Normandie aux Pyrénées, le ciel se voile et ça va tourner à la pluie. En Occitanie, l'ambiance deviendra lourde, donnant des orages marqués des Pyrénées au Roussillon. Le vent va commencer à se renforcer, il souffle déjà depuis ce matin sur ces régions, entre Corse et continent, et va se remettre à souffler dans le domaine de l'OTAN, en Provence et sur la Corse, jusqu'à 120 km/h en rafale. Et en fin de journée de demain, l'activité pluvio-orageuse se renforcera nettement en Roussillon. Et puis les pluies commenceront à glisser vers la façade est et vers le nord, pouvant atteindre la région parisienne. Les températures restent exactement les mêmes qu'aujourd'hui, entre 18 à Cherbourg et 27 à Lyon ou encore Avignon pour les maximales, 21 annoncés à Carcassonne et La Rochelle, 23 à Nantes, à Cahors et à Boulogne-sur-Mer, 25 à Marseille, à Bourges et Besançon.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 5 minutes, c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h. La Libre Antenne, Sabine Marin.
Passer ensemble au cœur de la nuit sur Europe 1. N'hésitez pas à appeler pour prendre la parole. Vous savez que vous pouvez nous téléphoner tout au long de l'émission. Vous faites le 3921 et vous tomberez soit sur Amandine, soit sur Hassan. Je vous rappelle que comme chaque soir, vous pouvez aussi participer à la Libre Antenne par SMS en tapant le 739-21 et en pensant bien à commencer par le mot « nuit ». Vos SMS sont importants pour poser des questions à la personne qui intervient, pour apporter une idée, peut-être une solution, car la Libre Antenne, vous le savez, c'est aussi une grande famille. C'est aussi par SMS que vous pouvez demander à entrer en contact avec quelqu'un que vous entendez et qui vous touche. 39 21 par téléphone, 7 39 21 par SMS.
23h, 1h, la Libre Antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir Xavier.
Bonsoir, bonsoir Sabine, je suis extrêmement intimidée de vous parler.
Oh, y a
j'avais
pas de quoi.
Déjà essayé de vous joindre, j'avais déjà essayé de vous joindre au mois de novembre pour un sujet comparable à celui dont je vais aborder là ce soir.
Mm-hmm.
Voilà, je me lance à l'eau, mais je vous dis, je suis presque très moite à ce point. Donc j'ai perdu mes deux parents en l'espace de un an. Il y a, ça va faire trois ans pour maman et deux ans pour mon père, on va dire l'été prochain.
C'était des deuils.
Ma mère est morte le jour de la fête des mères, pardon.
C'était quel genre de deuil? Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Alors justement, je ne l'avais pas dit quand je vous avais appelé la dernière fois. Ma mère a fait plusieurs choses en même temps. Alors, on était dans un petit restaurant provincial. Ma mère a fait à la fois une fausse route, crise cardiaque et AVC. D'ailleurs, je le dis dans le désordre, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Donc, si vous voulez, elle est tombée sur le champ enfin, elle a perdu connaissance et donc on lui a mis de la respiration artificielle en nous prévenant que de toute façon elle ne se réveillerait pas. Quant à mon père, donc il est mort lui, donc ça fera deux ans l'été prochain. Il est mort, je dirais, plus âgé. Maman est morte jeune. Elle avait 81 ans. Pour, au 21e siècle, 81 ans pour une femme, c'est à mon avis assez jeune. Mourir
c'est
à cet âge-là,
c'est pas très très jeune, non.
C'est
toujours trop jeune pour les gens qu'on aime.
Oui.
Mais 81 ans, ça commence quand même à être un âge un petit peu avancé. C'est pas.
Oui.
De toute façon, l'âge ne veut rien dire, tout est relatif. C'est pas tellement une question d'âge, mais objectivement, je comprends que ça, pour vous, ça vous est paru beaucoup trop tôt et trop rapide.
Je vais vous dire dans quelques minutes les conséquences de tout ça. Alors, mon père, lui, est donc mort des suites logiques, on va dire, de la vie, des problèmes de fin de vie, problèmes de cœur. Il a attrapé un germe lors d'une petite intervention qui s'est mis dans les alves, dans la colonne. Donc, il a quand même tenu un certain temps et il avait toute sa tête quand il est décédé, si vous voulez.
Et lui, avait quel âge?
Il aurait eu 90 ans.
D'accord.
Donc pour un homme, je trouve que c'est déjà plus. Là, il avait dépassé le comment dire, ses pronostics, d'autant plus que c'était un homme hypochondriaque. Alors, je trouve que c'est quand même pas mal comme performance pour un hypochondriaque de mourir à un âge pareil, quoi.
Oui.
Et alors le problème, c'est que. Donc alors, ma mère, je l'ai vue mourir en direct, c'est-à-dire elle est morte sous mes yeux. C'est très dur comme souvenir.
Mmh.
Et le gros problème, c'est que tout. Alors, voilà, j'essaie d'être plus clair que la dernière fois. J'ai cru être capable de faire face. C'est-à-dire qu'à la mort de maman, je me suis fait face. J'avais préparé psychologiquement son décès, pour mon père aussi. Donc, j'ai tenu un certain temps. Et tout s'est cassé la figure. On va dire au mois de décembre de l'année passée. Donc je vous avais appelé au mois de novembre, je crois me souvenir. Donc au mois de décembre de l'année passée, là, j'ai complètement craqué, avec une raison quand même particulière, c'est que depuis la mort de mes parents, je n'ai plus de famille du tout. Et je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de relations, je suis vraiment complètement isolé. C'est à la limite insupportable pour moi. Atroce, quoi. Donc je n'ai pas de but. En plus, j'ai 57 ans. Je me suis arrêté au niveau travail, on va dire précipitamment, parce que je suis un ancien prof. Et comme vous le savez, le métier de prof est très difficile. Et donc j'ai pu bénéficier d'une pension, on va dire, avant l'âge légal de la retraite.
Oui.
Tant
que vos parents étaient vivants, vous aviez une vie quand même, avec une vie sociale?
Ben, j'avais déjà ma vie de travail,
oui.
Et puis je les appelais l'un et l'autre tous les jours.
Non, mais en dehors d'eux, justement, vous aviez une vie?
Avec quelques collègues, alors avec quelques collègues, j'avais quelques amis, et j'ai commis une énorme maladresse, je me suis... on peut dire brouillé avec un certain nombre d'entre eux, d'entre elles, en leur balançant des choses pas sympas.
Pourquoi?
Donc ils ont très mal réagi. Donc je leur ai fait des reproches.
Mais pourquoi vous avez fait ça?
Je sais pas. Je vais pas trop rentrer dans certains détails, mais depuis que j'ai plus ou moins craqué au mois de décembre, je suis sous lithium. Donc le fameux régulateur de l'humeur.
Vous avez un problème de bipolarité?
Moi, je ne pense pas. Alors, les médecins pensent que oui. Moi, je ne pense pas. Et donc, je peux vous dire qu'à part des gens gentils comme vous, les psys ne sont pas mes copains.
Oh, il ne faut pas faire généralité, Xavier. Vous savez bien.
Ouais.
Il y a des psys formidables, il y a des psys qui ne le sont moins. C'est comme dans n'importe quel domaine.
Et donc...
Est-ce que le lithium vous fait du bien?
Je dirais, à part me donner des boutons, je ne vois pas de différence par rapport à...
Il n'y a pas moins de hauts et de bas?
Des hauts et des bas, il y en a... il y en a beaucoup. De toute façon, je n'arrive même pas à pleurer. Je suis, on va dire, relativement stabilisé. Donc ce qui est très dur, c'est, on va dire, une certaine solitude liée à, en grande partie, au décès de mes parents. J'ai une sœur qui m'a un petit peu laissé tomber, qui ne me parle pas, ou quand elle me parle très mal. Elle-même a eu le malheur de perdre son fils. Alors là, c'est quand même très difficile et je comprends sa réaction. Donc elle a perdu son fils d'un accident de ski.
Elle est elle-même dans le fond du trou, j'imagine.
Ça fait en fait plusieurs années, ça fera 10 ans à Noël, mais je crois qu'elle ne s'en remettra jamais.
Oui, bien sûr.
Et je n'ai peut-être pas trouvé les bons moyens de l'aider. Il faudrait que ce n'est pas évident.
Et si vous allez aussi mal l'un que l'autre, c'est compliqué de vous soutenir. Ouais.
Alors j'ai une petite nièce, donc ma sœur a une fille qui habite en région parisienne, mais qui ne me fréquente pas. Donc je me trouve complètement isolé, c'est-à-dire je ne vois personne. Avant je pouvais quand même. Puis par contre je rencontre des gens facilement. Mais on ne se fait pas des amis comme ça, il faut un certain temps.
Non, mais sans se faire des amis, on peut se faire aussi des copains, des voisins. Qu'est-ce que vous faites pour sortir de cette solitude?
Je vais faire... Alors, ne sautez pas au plafond.
D'accord, je m'attache à ma chaise.
Je vais faire de la pub pour le quartier, parce que le hasard fait que j'habite juste à côté d'Europe 1. Et donc je fréquente un café très, très, on va dire, très bobo dans le quartier, figurez-vous.
D'accord.
Il n'y en a pas tant que ça.
C'est un grand quartier, le 15e, quand même.
Oui, mais bon, j'habite la Grande Tour à côté d'Europe 1.
Mm-hmm. On va se faire
Et
coucou
où il y a d'ailleurs d'énormes... Pardon ?
On va se faire coucou par la fenêtre.
Et entre parenthèses, c'est une tour quand même assez impersonnelle. La vie n'est pas très facile, je trouve. Ça s'est un peu dégradé, mais bon, ça sépare. Enfin, bon,
je suis désolée, Xavier, mais moi j'ai un peu de mal avec ça. Quand on dit c'est impersonnel, il suffit d'aller frapper à la porte du voisin et l'inviter à boire un verre.
Oui, mais là justement, j'ai frappé récemment à la porte d'un voisin. Je lui dis, est-ce que je peux parler avec vous? J'ai pas tellement le moral.
Ah oui, mais attendez, si vous débarquez chez quelqu'un en disant j'ai pas le moral, j'ai besoin de parler, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Je ne parle pas de ça, je parle d'un échange. Et puis si ce n'est pas avec l'un, c'est avec l'autre. Vous allez frapper à une porte en disant, voilà, si on se faisait un petit café, un petit apéro ensemble. Et puis si celui-là ne veut pas, il y a plein d'autres portes. Ça, j'ai toujours du mal quand les gens me disent, les gens ne se parlent pas. Bah oui, mais dans ces cas-là, faites le premier pas. Moi, je vous assure que ça fonctionne.
Ce qui est très dur, c'est que on avait une assez belle maison en province. Ma sœur a vendu la maison et toutes mes affaires ont été jetées. Alors, que ce soit des vêtements, des livres, j'avais plus de 10 000 livres. Et tout ça a été en grande partie
10 000 jeté. Attendez, c'est pas un peu exagéré, Xavier, 10 000 livres?
Ah non, je vous assure.
Croyez-moi, j'en ai beaucoup à la maison, mais j'en ai pas 10 000.
Ben non, je n'ai pas vraiment compté à 100 près, mais c'est peut-être même plus de 10 000 et plus de 10 000 revues aussi, d'histoire principalement.
Mais quel rapport avec votre solitude ?
Ben, peut-être parce que mon père lisait beaucoup, on parlait beaucoup histoire, lui-même a été reçu brillamment à l'agrégation d'histoire à 82 ans, en étant reçu 53e, je trouve ça pas mal. Donc papa était vraiment passionné par l'histoire et on parlait beaucoup de cette matière-là, si vous voulez.
Mais c'est une grande chance. J'entends que vous avez la chance d'avoir une relation très fusionnelle avec des parents formidables. Mais en même temps...
Oui, il n'y a plus rien.
En même temps que cette relation vous a empêché un peu de grandir aussi. De vivre pour vous,
évidemment.
Oui, parce
que mes parents en même temps étaient à la fois très aimants et très stricts. Et ça m'a pas forcément aidé d'évoluer dans un milieu pareil.
Mais vous n'avez pas pris votre place d'homme indépendant dans cette histoire-là. Vous êtes resté entouré par papa et maman. Et quand, ils sont partis, du coup, vous êtes écroulé, quoi.
Exactement. C'est tout à fait ça, Sabine.
Et ce qui m'ennuie un peu, c'est que vous n'arrivez pas à trouver un bon thérapeute pour vous aider à grandir, à avancer.
Alors, dans un CMP, on va dire proche d'Europe 1, une psychologue que je trouve pas mal. Elle arrive un petit peu à dire des trucs intéressants et utiles pour moi. Et je suis suivie aussi par une psychiatre.
Oui, ça c'est plus pour les traitements aussi, j'imagine, pour le lithium et des choses comme ça.
Oui. Et entre parenthèses, c'est le sens aussi de mon appel. S'il y a des gens qui veulent me contacter, ils seront les bienvenus. Parce que vraiment, cette solitude m'est insupportable, quoi. Alors, depuis la mort notamment de ma mère... Je n'arrive plus à me faire à manger. Alors, je ne sais pas s'il faut aller consulter à nouveau pour ça, mais bon, si vous voulez, je mange dans des petits restaurants, en ne mangeant d'ailleurs pas des repas équilibrés parce que c'est cher, mais bon, je n'arrive pas à me faire à manger, quoi.
Oui, mais je pense que vraiment, vous êtes en plein deuil, vous n'avez absolument pas fait le deuil. C'est brutal, en plus, de perdre ses deux parents à peu d'intervalle comme ça.
Oui.
Et il y a vraiment un travail à faire. C'est un pas après l'autre. Ça se fait un pas après l'autre, ce travail-là de deuil, pour sortir de ça. C'est exactement comme se lier des contacts avec les autres. Vous voyez, il y a Laurence qui envoie un message qui dit « Je suis pareil que lui, j'arrive pas à faire connaissance, j'arrive pas à aller de l'avant, j'arrive pas à aller au-devant des gens. »
Qu'elle me contacte, Laurence. Dites à Laurence qu'elle me contacte.
On va mettre deux grands timides l'un face à l'autre. Il y en a un qui dit rien et l'autre qui l'écoute toute la soirée, c'est ça?
Et puis je fais des efforts, alors je fais des efforts aussi pour aller vers les autres, je crois. J'ai même, je devrais pas le dire, mais je le dis quand même, et je vais pas torpiller Europe 1, j'ai même contacté un des animateurs avec lequel j'ai fait mes études. On va dire le grand historien de votre station, je ne vais pas le nommer. Et quelqu'un de très gentil, donc j'ai laissé une petite lettre à Europe 1, mais bon, il n'a pas répondu. Tant pis.
Oui, mais il y a plein d'autres choses à faire, Xavier. Je ne suis pas sûre que vous les fassiez vraiment. Faire des activités, aller dans des associations, devenir bénévole.
Alors, je visite pas mal d'expositions.
Mais c'est pas comme ça qu'on rencontre des gens. Je vous parle d'activité.
Là, on, avec un groupe auquel je me suis inscrit, on doit faire une expo vendredi. On doit aller voir l'exposition sur les peintres orientalistes au musée Monet Marmottan. Et donc,
ben c'est bien, vous faites des choses au moins pour bouger. Et il y a une chose importante aussi quand on se sent seul comme ça et qu'on va pas bien, c'est d'aller aider les autres. Quand on s'inscrit dans des associations pour être bénévole dans plein de choses, ça aide.
Je pense qu'avec un bon coup de pied aux fesses, j'en serais capable, mais dans les médias, je ne me sens pas vraiment capable de faire ça.
Il y a Chantal qui vient de nous laisser un message et qui souhaite rentrer en contact avec vous.
Elle peut.
Alors, on va se quitter, Xavier, et je vais vous laisser avec Hassan qui va vous laisser son numéro tout de suite, d'accord?
D'accord. Alors, je vous remercie, Sabine, et sachez que j'écoute votre émission quasiment tous les soirs.
C'est gentil.
Et qu'il y a des témoignages très difficiles et que votre rôle n'est pas toujours évident, je pense. Donc voilà.
Merci Xavier.
Ben, je vous remercie.
Je vous embrasse.
Bonne nuit.
Merci.
Au revoir. Je vous embrasse aussi. Au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et je vais faire maintenant la connaissance d'Odile. Bonsoir Odile.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci.
Je suis ravie de vous accueillir sur cette libre antenne.
Je suis ravie que vous m'accueillez. Merci beaucoup.
Alors racontez-moi votre histoire, Odile.
Je ne suis pas comme que l'auditeur précédent, Xavier, mais je souffre quand même un peu de solitude.
Oui.
Pas autant que lui. Dieu merci. D'ailleurs, je lui souhaite beaucoup de courage.
Il y a eu beaucoup d'appels pour lui. On est en train de le mettre en communication avec plusieurs personnes qui ont laissé leurs coordonnées. Donc, je pense qu'il va être entouré là dans les jours qui viennent.
Oui. Tant mieux. Moi, mon gros problème, c'est les dimanches. Je suis tout le temps toute seule.
Pourquoi ? Quelle est la différence avec la semaine ?
Eh bien, la semaine, maintenant, depuis... Excusez-moi, je vais me reprendre. La semaine, je suis occupée plus parce que l'année dernière, en 2018, en juillet, oui, 2018, ma fille cadette qui a eu un bébé en mars 2018, donc ma petite fille avait 3 mois, elle a fait une dépression postpartum.
Oui.
Oh là là. Parce que c'est-à-dire qu'ils habitaient à côté de Lyon, elle travaillait dans les ressources humaines chez les sapeurs-pompiers de Lyon. Et mon gendre travaillait comme chauffeur-livreur dans l'Ain, à Replonge exactement. Donc il faisait tous les jours les trajets entre Ambérieu d'Azergues, qui est à côté de Villefranche, sur Saône. Donc tous les jours, Ambérieu Replonge et le soir Replonge Ambérieu. Donc il partait à 5h du matin et rentrait à 20h le soir.
Et donc votre fille était seule avec le bébé et elle a craqué.
Et elle a une fille aînée qui avait 5 ans. Oui. Mmh. Oui.
Donc c'est très dur de gérer à la fois un enfant de 5 ans et un nouveau-né.
Oui, c'est sûr.
Et un mari souvent absent.
Voilà. Mmh. Oui, ben, c'était pour son boulot, mais bon. Il avait choisi ça. Moi, je lui avais dit, je ne veux pas dire son nom, son prénom, pardon. Je lui avais dit, tu sais, j'avais gardé ma petite fille de 5 ans quand il est allé se présenter à cette nouvelle place. Et je lui avais dit, tu sais, Marilyn, je dis son prénom, c'est pas grave. Elle va être toute seule avec Margot et elle est enceinte jusqu'au cou, comme on dit. Et elle va pas tenir le coup, tu vas être crevée, vous allez pas y arriver. Bon, il m'a pas écouté. Il m'a dit, mais Odile, je vais gagner plus d'argent, on va être plus heureux, on va acheter une maison dans l'Ain. Enfin bref, c'était leur projet. Hein.
Mm-hmm.
Mais je sais pas, l'intuition que j'ai. Bref, ceci dit, donc depuis en juillet, je suis allée tous les jours. Ils habitaient du coup à 20 minutes de chez moi. Je partais à 6h du matin, je rentrais à 19h le soir.
Pour vous occuper des enfants ?
Des enfants, oui. Ah, c'était mon métier. J'étais auxiliaire puéricultrice pendant 40 ans. Mais bon, je suis en retraite depuis 10 ans.
Donc c'est plutôt bien ça que vous ayez pu aller vous occuper de vos petites filles ?
Oui, oui, ouais. Ma fille, elle me disait, Margot, elle m'énerve, je la supporte plus. La grande, 5 ans, et elle me dit, je l'aime pas, je la supporte pas, elle crie tout le temps, je l'aime pas, je l'ai endormie. Maman, je vais me suicider, elle m'a dit un jour. Mon Dieu, j'ai dit, Marie, ne fais pas ça, t'as des filles, t'as un mari, ils ont besoin de toi. Et puis tout, moi,
Odile, Odile, moi, respirez parce qu'on ne comprend absolument pas. Je ne vous comprends plus, là, c'est difficile de suivre. Si j'ai bien compris, votre fille, donc, elle est toujours en pleine dépression.
Non, non.
Non ?
Non, elle a repris son travail, ils sont retournés habiter à côté de Lyon.
Bah, vous me disiez qu'elle était au bout du rouleau.
Oui, au mois de juillet jusqu'au mois de décembre.
D'accord, donc
2018.
D'accord, donc là, ça va mieux, elle a repris le...
Ça va mieux.
Bon, oui. Elle a remonté la pente.
Oui.
Vous savez, c'est très fréquent quand on a déjà un enfant en bas âge et qu'on a un bébé derrière et qu'on a un mari très occupé, qu'on craque. Hein.
Oui.
Elle a dû être absolument épuisée, physiquement, nerveusement.
Oui. Elle a été suivie par une psychiatre là où j'habite, qui s'occupe beaucoup des mamans épuisées de leurs bébés et des enfants en bas âge. Donc ça l'a beaucoup aidée. Elle a eu un traitement en psy, bien sûr. Oui. Et puis, le jour où elle a pris sa voiture, elle m'a dit, je prends la voiture, je vais me foutre contre un mur, je vais me jeter en Saône. J'ai dit, Marie-Lyne, ne fais pas ça. Elle me dit, j'ai besoin de sortir de cette maison. J'en peux plus, enfin bref. Elle s'est mise à pleurer, puis elle a pris la voiture.
Mais elle
n'a pas pu l'en empêcher. Mais elle ne l'a pas fait.
Elle ne l'a pas fait, ben
non. Elle est revenue.
Ben voilà.
Elle me dit, j'ai pris la voiture, j'avais besoin d'être toute seule, j'ai écouté ma musique, ma radio préférée. Et je suis revenue, mais elle est revenue au bout de 3/4 d'heure, quoi. Alors Margot est à l'école, moi j'étais...
Mais Odile, ça va bien maintenant. Elle a remonté la pente. Pourquoi vous torturez avec quelque chose qui est passé?
Je sais qu'il faut... C'est passé, oui, vous avez raison, tout. Mes amis me le disent. Mais là, demain, je vais chez ma meilleure amie qui vient perdre sa maman. Elle m'a appelée ce matin, elle était en larmes. Elle s'en remet pas. Mais c'est vrai qu'on me dit, mon médecin généraliste qui est génial, qui est très proche de moi, qui m'écoute, elle m'a dit, mais vous pouvez pas porter toute la douleur du monde.
Mais j'ai surtout l'impression, Odile, que c'est vous qui êtes en pleine dépression, là.
Non, non, je vais bien.
Ah ben, vous n'avez pas l'air d'aller bien.
Ben, j'ai craqué cet après-midi. Là, ce soir aussi.
Ben oui, c'est... vous savez, vous avez le droit d'aller mal. Hein. C'est pas une honte d'aller mal.
Oui, oui.
Mais dans ces cas-là, il faut demander de l'aide.
Ben, je suis quand même... J'étais suivie par un psychiatre qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai fait une dépression nerveuse au départ de mon ex-mari.
Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez une thérapeute ?
Oui.
Bon.
Je vois un psychiatre qui est en train tout doucement de diminuer mon traitement. Parce que j'ai été... c'est moi qui ai posé la question à l'ancien psychiatre que je voyais, que j'ai laissé tomber pour X raisons. Je lui ai dit, mais est-ce que je suis bipolaire ? J'ai dit, j'ai regardé des renseignements sur... Ah, il m'a dit, répondu, on peut dire ça comme ça. Voilà.
Oui,
donc j'avais un traitement assez lourd. Il m'avait donné un antidépresseur, un anxiolytique le soir, la dépamine, et puis j'ai plus du Zyprexan. Enfin bon, donc c'est le nouveau que je consulte là, sur les conseils de ma généraliste.
Est-ce que ça vous aide ?
Oui, beaucoup.
Parce qu'effectivement, je pense qu'il est urgent de travailler à vous apprendre à ne pas porter le poids du monde tout le temps sur vos épaules.
Ah oui, c'est toujours... C'est plus loin que je me souviens, je suis toujours une gosse.
Oui, j'ai l'impression que vous avez dû grandir dans un schéma familial où on vous a mis beaucoup de choses sur les épaules.
Non, pas mes parents. Pas mes parents, mais quand j'ai fait mes études d'auxiliaire, il m'est arrivé un gros pépin. J'étais de nuit avec une collègue, enfin, oui, une élève. Et le matin, on a trouvé un bébé. La barrière s'était baissée toute seule, il était décédé. Et l'élève qui était avec moi a dit que c'était pas elle qui avait fait ça, qui avait oublié de remonter la barrière.
Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bébé?
Eh bien, il a été étranglé par la barrière qui est tombée sur lui.
Il est mort?
Oui.
Oui, donc c'est un gros traumatisme aussi. J'entends dans votre histoire qu'il y a beaucoup de traumatismes.
Oui.
Et que vous n'avez pas encore soigné tout ça. Est-ce qu'on vous a proposé, est-ce que le psychiatre vous a proposé des séances de MDR, par exemple?
Non. Oui, j'en ai entendu parler de l'EMDR, vous en parlez.
Parce que quand il y a plusieurs couches de traumatisme comme ça, c'est important. Hein.
Oui.
Parce que, pardon, mais non, vous n'allez pas bien, Odile.
Oui.
Vous n'allez pas bien, vous avez besoin qu'on vous aide et besoin d'aller travailler sur ces traumatismes-là qui vous secouent encore. Il y a un terrain fragile et du coup, il y a des choses qui sont démesurées. Par exemple, quand vous parlez de votre fille, elle va bien maintenant.
Oui,
donc ça ne sert à rien de vous torturer sur ce qui s'est passé l'an dernier.
Non, puis je vais les garder là, mardi.
Ah bah ça,
c'est... Les garder
oui,
toutes
c'est
les
vrai
deux.
Que c'est les vacances en plus, la petite
oui,
doit être en vacances.
Les vacances.
Donc vous allez en profiter, passer de beaux moments avec elle.
Ah ben, je ne craque pas avec elle, ni devant mes filles, elles ne veulent pas que je pleure. Parce que j'ai pas digéré le départ de mon ex-mari non plus. Son départ, ça a été une chose, mais j'étais enceinte quand il est parti avec une jeunette. J'ai perdu mon bébé à 3 mois de grossesse.
Et ça fait un traumatisme de plus. Oui, vous en avez accumulé beaucoup. Hein.
Oui.
Mais dites-vous que vous êtes toujours debout, Odile. Vous êtes toujours
là. Je suis toujours debout parce que, vous savez, j'ai toujours gardé la foi.
Mm-hmm.
Je suis croyante depuis toute jeune. Ça m'aide beaucoup.
Mais c'est important.
Je prie.
C'est important.
Et puis j'écris. J'écris dans mon journal intime.
Mm-hmm.
Cet après-midi, j'écris, j'ai pleuré en même temps parfois, mais j'ai écrit. Et puis après, je me dis, ma pauvre Odile, ma pauvre vieille, j'ai 67 ans au mois de septembre.
Odile, pensez aussi aux gens qui vous aiment, à votre fille, vos petites filles qui sont là pour vous
oui,
et que vous allez voir.
J'ai une fille aînée qui a 4 ans de plus que ma cadette et j'ai une petite fille qui va avoir 13 ans.
Mais tout ça, c'est du positif. Essayez, Odile, chaque jour de vous concentrer sur des choses positives.
Oui.
Hein, sur des gens qui vous aiment, sur des bons moments, sur des envies, des projets. Sur les petites.
J'ai repris mes activités, du coup, que ma fille a moins besoin de moi.
Ah, ça, c'est très bien. Vous faites quoi comme activité?
Alors, je fais de l'art floral.
Mm-hmm.
J'adore ça. Je vais à la chorale le mercredi soir. J'aime beaucoup chanter.
Ouais.
Et ça me fait du bien, la respiration, le vent. Je fais du yoga.
Mais vous faites plein de choses. C'est formidable, ça.
Je vais à la piscine. Mm-hmm. Oui. Ben, j'avais toutes ces activités avant que tout ça nous tombe dessus à ma fille.
Mais là, maintenant que les choses s'apaisent, vous reprenez tout ça?
Oui, je reprends. Et au mois de septembre, je vais reprendre complètement tout parce que je veux faire du bénévolat. J'en faisais avant. J'ai tout arrêté, en fait, de voir mes amis. Même ma fille aînée, je la voyais moins. Quand Marilyn est tombée malade, quoi.
Mmh.
Pour m'occuper d'elle et de mes petites filles. Et puis de mon jambe, parce qu'il était écroulé de douleur. Et dis-moi, Odile, si elle recommence comme elle a fait, parce qu'elle avait appelé au secours, elle a demandé à être hospitalisée au mois de... Elle avait trois mois, je juge. Oui, parce qu'elle n'en pouvait plus, elle ne dormait plus.
Mais Odile, la vague est passée maintenant, prenez soin de vous. Il y a Marc qui vous envoie un message très gentil qui dit « Odile, vous vous mettez beaucoup trop de pression, vous voulez que tout soit parfait, prenez soin de vous. »
Oui, merci Marc.
Maintenant que la vague est passée, vraiment, continuez à voir votre psychiatre pour le traitement médical, continuez la thérapie parce que je pense qu'il y a beaucoup de traumatismes à nettoyer.
Oui.
Et restez sur ce chemin-là qui est celui de vous retrouver vous-même avec des activités qui vous plaisent, avec des gens positifs.
Oui.
Hein?
Ben demain, à midi, je vais chez mon amie Sylvie, là, qui a perdu sa maman, parce que...
Bon, ça va pas être très gai, mais c'est la vie aussi.
C'est rien. fait rien, il faut que je le fasse. Je suis allée à la veillée Pascal, là, avec un ami à moi. Une belle célébration. Et puis, j'ai été aussi très choquée, comment dire, chagrinée par l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Oui, bien sûr, mais comme beaucoup, hein.
J'ai pas une grosse retraite, vous savez, mais j'ai envoyé un don.
Ah, c'est gentil.
Pour la rebâtir.
Mais elle est toujours debout, la vieille dame, on
oui.
va la restaurer.
Oui, hein. Aux infos, je sais plus, à la télé, c'est la vieille dame de 856 ans.
Oui. Et oui. On se sent tout jeune à côté, hein.
Oui, comme vous dites. Ah ben vous êtes jeune. Vous avez une jolie voix. J'aime votre voix douce.
C'est gentil.
Et puis, j'aime, comme vous savez, apaiser les personnes qui vous appellent, comme vous êtes en train de le faire avec moi.
Alors, Odile, promettez-moi de vous occuper de vous maintenant.
Oui, je vais parler à mon psychiatre de l'EMDR.
S'il vous plaît, oui, ce serait une bonne chose.
Oui.
D'accord ?
Oui, d'accord.
Et je vous serre dans mes bras très fort et je vous envoie plein de lumière.
Oh, merci, ça me touche. Merci d'être là pour toutes les personnes qui ont besoin de vous, celles qui vous écoutent. Celle qui vous appelle.
C'est gentil, Odile.
Ou d'autres causes pas vous appeler, mais qui écoute.
Merci, Odile.
Et à Sophie aussi, que là, en semaine.
Je lui transmettrai un gros bisou de votre part à Sophie.
Oui, oui, elle va se rappeler de moi. Je l'ai appelée quand elle était les week-ends.
D'accord, je lui dirai.
Quand Caroline était là la semaine.
Je lui dirai.
D'accord.
Prenez
merci.
Soin de vous, Odile, je vous embrasse.
Oui, je vais prendre soin de moi.
Au revoir.
Merci beaucoup de m'avoir pris au téléphone. Bonsoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et il me reste le temps d'accueillir Zouina. Bonsoir à vous, Zouina.
Oui, bonsoir, madame.
Bienvenue.
Je vous remercie beaucoup. Je tenais déjà à vous remercier pour votre émission. Vous nous remontez un petit peu le moral. Et puis donc, je voulais témoigner ma vie. Et puis donc, je voulais dire à la dame qui était passée avant que je lui souhaitais bon courage et que j'aimerais qu'elle écoute mon histoire si elle peut remonter la pente. Et aussi, je voudrais parler, si elle nous écoute ce soir, à une dame qui vous a appelé il y a 2-3 jours, Anna. Voilà. Donc, je vais commencer par mon histoire.
Oui.
Donc, déjà, par rapport à vous, je vous remercie d'avoir écouté des gens comme nous. Nous vous remercions tous, les auditeurs et auditrices qui vous écoutent et qui vous appellent, de ne pas nous juger et d'être là pour justement nous épauler et nous aider à nous en sortir de cette souffrance atroce.
Oui.
Alors mon histoire, elle est à peu près comme l'histoire d'Anna, sauf que moi, ma maman, elle ne m'a pas jetée tout de suite. Donc, elle a attendu quelques jours après ma naissance. Donc, mon papa lui a dit, moi, je t'avertis, si c'est une fille, je ne la veux pas, vous l'enterrez vivante. Donc, ma maman n'a pas pu m'enterrer vivante. Ma grand-mère paternelle m'a prise sous ses ailes jusqu'à l'âge de 12 ans. Je m'en souviens, je suis d'origine d'Algérie. Je suis d'origine kabyle comme Anna. Mmh. Je m'en souviens parce qu'elle me racontait, ma grand-mère, elle vendait 2-3 œufs à gauche et à droite pour pouvoir avoir un petit peu de lait de chèvre pour me nourrir. Et puis elle me mettait des grenades, l'eau des grenades dans ma bouche pour pouvoir me nourrir. Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai vécu l'amour de maternelle de ma grand-mère.
Alors,
ma grand-mère,
pardon Zouina, juste pour situer un petit peu pour ceux qui n'ont pas entendu, si je me souviens bien, Anna, son histoire, c'était que sa maman ne voulait absolument pas d'une fille et que
oui,
quand elle est née, elle a refusé de lui donner un prénom. Elle a dit aux infirmières qu'elle s'en
tout
fichait complètement,
fait.
Que c'était à l'infirmière de choisir, c'est ça.
Oui. Tout à fait.
Okay.
Tout à fait. Je ne la veux pas, vous vous débrouillez, je ne veux pas la voir. Et puis c'était les sœurs que l'on donnait son prénom, Anna.
Voilà. Mais vous avez eu la chance que votre grand-mère vous aime et vous accueille.
Exactement. Donc moi, j'ai eu une chance inouïe, mais malheureusement, Sabine, ça n'a pas duré. Donc, de ma naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai eu l'amour de ma grand-mère, j'ai eu la protection de ma grand-mère, j'ai eu tout ce qu'une grand-mère peut donner mm-hmm. à sa petite fille. Et malheureusement, à l'âge de 12 ans, mon papa, que je ne connaissais pas, était en France, puisqu'il vivait en France, il était mineur de fond dans la Loire. Donc, il est venu, donc il nous a fait faire un groupement familial, il nous a fait venir ses 5 enfants qui sont nés d'Algérie, donc avec soi-disant maman qui m'a rejetée.
Pour vous, c'était des étrangers complets, j'imagine?
Tout à fait, mais oui. J'allais en venir, Sabine. Donc voilà, 12 ans, on m'a arraché des bras de ma grand-mère. Donc, pour me mettre avec ces gens-là que je ne connaissais pas, ni maman, ni papa, ni la France. Donc, nous voici partir en France, les 5 enfants qui sont nés en Algérie, avec les 2 soi-disant parents. D'ailleurs, j'ai écrit un livre. Donc, c'est ce qu'elle aurait dû faire, cette dame qui était avant moi, Odile. Exactement, je cherchais son prénom. Moi, je l'incite à écrire un livre sur sa vie, à faire sa biographie. Donc moi, j'ai écrit un livre que je vous ai envoyé à la radio.
Ah bon?
Je l'ai envoyé à Europe numéro 1.
Oui.
Donc le titre, c'est je l'ai envoyé recommandé puisque j'ai reçu l'accusé de réception. Donc ça veut dire que vous l'avez reçu. Je ne dis pas vous, Madame Sabine, donc l'Europe numéro 1. Donc le titre, c'est Baya Agbala, c'est-à-dire que Baya, c'est ma grand-mère qui m'a sauvé la vie, donc c'est ma grand-mère paternelle. Agbala, donc c'est le village où je suis née en Algérie, et le titre, on m'a appelé la Vaurien. Donc je pense que vous l'avez, puisque j'ai reçu donc l'accusé de réception, comme quoi qu'elle était signée, et que je l'ai reçue, j'étais contente, je me suis dit, c'est bon, ils l'ont eu à Europe numéro 1.
Mais à qui vous l'avez envoyé, Zouina?
À la dame qui fait la semaine.
À Sophie, il faudrait voir ça avec elle. Moi, je ne prends pas le courrier de Sophie.
Voilà, donc je l'ai envoyé à Sophie. Et moi, j'aimerais que tout le monde le lise. Tous les gens qui travaillent à Europe numéro 1 lisent un petit peu mon histoire, ma vie, ma détresse. Donc, me voici partir à l'âge de 12 ans en France avec 2 étrangers et puis la France que je ne connaissais pas. Nous sommes arrivés dans une pièce plus cuisine avec 5 enfants plus 2 parents qui dorment dans la même chambre. Donc, nous n'avons pas de l'eau chaude ni d'eau froide à l'intérieur de la maison. Donc, c'est moi avec mes 2 petites mains de 12 ans qui lavaient le linge à l'extérieur. Donc, quand je disais à ma maman, mes mains, elles sont gelées, ramenez-moi d'où je viens, ramenez-moi vers la personne qui m'a aimée, qui m'a protégée. Elle me disait, ta mère, c'est moi, tu es contente, c'est comme ça. Et sinon, je le dis à ton père, il te massacre. Donc, je disais jamais rien. Et puis ensuite, donc, on a eu 5 enfants qui sont venus d'Algérie. Après, d'ailleurs, dans le livre, si vous aurez l'occasion et la chance de le lire, je disais, cette soi-disante mère, donc, elle est tombée enceinte en France. Elle a eu donc une petite fille. Et puis, en revenant de la maternité, donc nous étions 6 enfants dans une pièce, une chambre avec les 2 parents et une cuisine. Étant donné que le père était mineur de fond, donc il a demandé un appartement plus grand à la mine, donc ils l'ont accordé. On a eu un F5 plus cuisine, une machine à laver. Donc j'étais toute contente puisque je n'avais pas du linge à laver à la main. Dans le froid, on avait de l'eau à l'intérieur, eau froide, on n'avait pas d'eau chaude. On avait la machine à laver, donc j'avais pas besoin de laver. Voilà. Et puis, malheureusement, donc, je suis allée à l'école quand je suis arrivée en France de 12 à 14 ans. Parce qu'à mon époque, à 14 ans, l'école n'était plus obligatoire.
Oui, tout à fait.
Donc à 14 ans, il n'y avait plus d'école. Donc, c'était à moi d'élever mes frères et sœurs. C'est-à-dire que 5 frères et sœurs, plus ma maman qui attendait un autre, un bébé. Et donc, ma maman, elle dormait. Et puis moi, je faisais tout. Je faisais le ménage, je faisais le repassage. Je lavais mes petits frères et sœurs. Je préparais le petit déjeuner. Mais moi, c'était interdit de sortir. C'était interdit d'avoir des amis. C'était interdit d'aller au sanitaire à l'extérieur parce qu'on n'avait pas les sanitaires dedans. On m'a acheté un pot de chambre pour pas sortir. Donc, ça a duré pendant donc de 12 à 14 ans, je suis à l'école. Et de 14 à 16 ans, on m'a mariée. Donc, voilà, ça a duré pendant 2 ans. C'était une maltraitance avec brûle avec des pique-feu parce qu'on chauffait au charbon. Donc, quand mon papa, il arrivait de la mine, je ne cache plus rien, madame, parce que je ne me rappelle plus votre prénom, c'est Sophie que j'ai eu une fois. Donc, je ne cache plus rien, j'en ai marre de cacher. Donc, tous ces gens qui vous appellent, il faut qu'ils parlent. Il ne faut pas qu'ils gardent tout à l'intérieur. Je sais très bien que les cicatrices, elles restent. Je sais très bien qu'on peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais il faut absolument que tous ces gens qui nous écoutent et qui vous appellent pour leur désarroi, il faut parler. Ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas seuls. Sortez, parlez, essayez de vous faire aider. Il y en a un qui vous disait que les psychiatres, c'était pas son... Je suis tombée sur une psychiatre qui était extraordinaire et qui est toujours extraordinaire.
Ah oui, il faut le dire aussi, il faut le souligner ça aussi.
Elle me suit depuis 2010 et je suis toujours avec elle. Je suis suivie par un psychologue. Je suis en train de faire l'hôpital du jour 2 fois par semaine. J'y vais le matin, je rentre le soir. Donc, ne désespérez jamais, ne désespérez jamais. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'espère que malgré que c'est presque 1h du matin, que les gens nous écoutent quand même pour leur dire ma souffrance, ma maltraitance, et je suis encore debout. Donc nous avons donc déménagé, nous avons eu 5 pièces plus cuisine, donc je n'avais plus le linge.
Zouina, il nous reste très peu de temps parce que l'émission se termine. Racontez-moi après votre vie de femme, d'adulte. Comment est-ce que vous avez évolué?
Alors, je reste là-dessus. Donc, quand j'ai eu mes règles, ma maman, donc j'ai supplié ma maman pour lui dire de ne pas le dire à mon père parce que j'avais honte. Ma maman m'a trahi, donc elle a dit à mon père, ta fille, elle est devenue femme, il faut la marier. Alors moi, ce qui m'a fait surtout mal, ce que je tenais à ce que tous les spectateurs m'écoutent, et je souhaiterais de tout mon cœur, je sais que je vous prends du temps, mais malheureusement, je n'arriverai pas, c'est que les gens lisent mon livre, lisent ma biographie, lisent ma souffrance, ma maltraitance. Donc me voici à l'âge de 16 ans. On préparait le couscous à la maison, on préparait des dames qui venaient, qui faisaient les you-you, qui faisaient la fête. Moi, je ne comprenais pas pour qui, parce que je n'ai jamais vu ce monsieur. Je ne savais pas qu'ils allaient me marier. Et puis je me dis, mais attends, il y a un problème. Mes frères, ils étaient circoncis en Algérie. Donc, pourquoi ils font la fête? Je monte chez la voisine. Donc, malheureusement, c'était pour mon mariage.
Mariée de force, disais, donc, oui.
Et voilà, mariée sans le connaître. Donc, j'ai eu des coups de ceinture de mon père. J'ai retrouvé des coups de ceinture de mon mari. J'ai eu de l'alcool de mon père qui buvait. J'étais la fille aînée. Donc, c'est moi qui protégeais mes frères et sœurs. Donc, j'ai trouvé un homme qui me battait, un homme qui buvait. Donc voilà. C'était leur jour, c'était leur fête, c'était leur fête à eux, leur you-you à eux, leur couscous à eux. Mais moi, j'appelais que ma grand-mère. What-elle pour me sauver de là? Parce que je ne voulais pas rester là. C'était pas des gens que je maltraitais. Et à l'époque, j'avais Johnny qui chantait Noir, c'est noir. Et je voyais ma vie qui était noir, c'est noir. Mm-hmm. Ma vie blanche, elle était derrière moi, avec ma grand-mère. Donc, on m'a mariée avec ce monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève.
Zouina, il nous reste une minute. Il faut vraiment que vous alliez plus vite pour me raconter la suite.
Oui, quel dommage. Donc, on m'a mariée. Donc, j'ai eu 6 beaux enfants. J'ai été abusée. On m'a attaché mes bras et mes jambes pour faire ce qu'il a à faire, parce que moi, je ne le connaissais pas. J'ai eu 6 beaux enfants. Et donc, aujourd'hui, 50 ans de mariage, j'ai demandé le divorce. Donc, je suis partie. Donc, j'ai 66 ans, je ne suis pas toute jeune. Donc, aujourd'hui, mesdames qui nous écoutent, c'est dommage qu'on n'a pas assez de temps. Soyez courageuses, ayez fière de vous, restez debout. Je suis restée debout, j'ai mon appartement, je suis toute seule, j'ai écrit mon livre, j'avais un super boulot que j'aimais, donc je suis retraitée aujourd'hui. Donc mes enfants, ils m'ont énormément aidée, je les remercierai jamais assez à tenir debout. Et c'est vrai que quand on vous a toujours traité de rien, toujours, toute ma vie, j'ai entendu « tu vaux rien ». Tu es rien, tu es qu'une merde. Un âne, tu voudrais pas. Un aveugle, tu voudrais pas. Donc, j'ai entendu tout ça toute ma vie. Et aujourd'hui, madame, c'est très dur de se reconstruire. C'est très dur d'être quelqu'un. C'est très dur d'être une personne.
Zouina, on a bien entendu votre message. Il faut parler et vous êtes toujours debout et bravo. Et merci pour cet encouragement pour toutes les femmes. Je vous embrasse très fort, Zouina. Merci à Zouina, merci à Xavier, à Odile, à Aurélie, à Marcel d'avoir pris la parole ce soir sur cette libre antenne, vous l'avez compris. Ça se termine. Demain soir, vous retrouverez à ce micro Sophie Peters. Le week-end prochain, je serai en vacances et c'est Catherine Blanc qui viendra prendre le relais et je l'en remercie. Je vous quitte avec cette citation. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Je vous souhaite une bonne nuit sur Europe 1 en compagnie maintenant de Pierre Bellemare.